chemins de la sagesse. Une émission proposée par Michel Théron.
Et oui, Michel Théron, sur les chemins de la sagesse, c'est le titre du livre que vous publiez aux éditions BOD. Bonjour Michel.
Bonjour Guylaine, bonjour à tous.
Alors, je réalise que les éditions BOD, ce sont des éditions qui sont finalement très écologiques. Ils publient au moment où le client demande le livre auprès de son fournisseur, de son libraire, de l'éditeur.
Exactement, cela évite d'imprimer tout un stock de livres qui seront pilonnés s'ils ne sont pas vendus. Donc effectivement, on économise des arbres. Hein. Un livre, c'est la mort d'un arbre, voilà. Comme on dit. Hein. Et c'est très écologique, je m'en trouve très bien.
Voilà, et en plus de ça, les mises à jour, les nouvelles éditions se font d'une façon pas automatique, bien sûr, parce que c'est vous qui les suscitez. Mais le dernier livre que vous commanderez, chers auditeurs, auditrices, c'est celui que vous aurez mis à jour.
Voilà, le dernier en date, tout à fait.
Dernier en date.
Il sera enrichi, par exemple, de ce que nous sommes en train de dire tous les deux au micro.
Alors, nous en sommes au chapitre 12, Michel, de votre livre sur les chemins de la sagesse. Un chapitre sur le quiétisme, voilà. Est-ce qu'on dirait la tempérance? Non, peut-être pas. En tout cas, le non-agir.
Voilà, non-agir, point d'interrogation. Hein. Je pense qu'il y a dans certains moments de nos vies la tentation de ne point agir, de rester en repos, et c'est ce que demandent tous les quiétismes. Alors, quiétisme, c'est un mot un peu savant, qui vient du latin quies, qui veut dire repos. Hein. Alors, cette tentation, il faut bien sûr la prendre en considération, et dans beaucoup de cas, s'y ranger. Hein. Alors, n'oublions pas que Jésus, dans l'Évangile, a préféré Marie, qui incarnait la vie contemplative, en grec « bios theoretikos », à Marthe, qui incarnait la vie active, en grec « bios praktikos ». Vous connaissez l'épisode dans l'Évangile selon Luc, chapitre 10, verset 41 et suivant. Hein, Jésus descend chez deux sœurs, Marthe et Marie. Marthe s'agite, elle s'occupe de tout mettre en ordre pour bien recevoir leur hôte, et elle dit à sa sœur Marie, mais remue-toi, fais quelque chose pour que notre hôte soit mieux satisfait. À quoi Jésus répond, Marthe, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera pas enlevée. En grec, Mariam gar ten agaten merida ex elexato etis uk afairetesetai autes. Hein. Elle a choisi la bonne part. On dit la meilleure part, mais la bonne part. Ten agaten merida. Voilà. Alors, si on compare les deux attitudes de Marie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde, immobile, elle contemple Jésus avec sidération et avec beaucoup d'empathie et d'amour. Tandis que Marthe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle époussette, elle balaye.
Elle s'active,
voilà, c'est ça, la vie active. Elle balaye, il y a quelque chose d'un peu vain là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire, Guylaine, que balayer, c'est déplacer la poussière d'un point A à un point B?
Ceci dit, que ça reste indispensable quand même.
Je ne sais pas. On ne la détruit pas. Hein. De toutes les façons, il y a quelque chose d'un peu dérisoire hein, là-dedans. Hein. Alors que la contemplation nous ouvre des horizons spirituels que l'action, a priori, ne nous donne pas. Alors, pareillement, puisque j'en suis à parler de la Bible, prenons l'Ancien Testament dans la Genèse. On sait que Dieu préfère l'offrande d'Abel à l'offrande de Caïn. Mais qu'est-ce qu'il a offert, Abel? Il a offert des nouveau-nés de son troupeau. Hein. Et Caïn, il a offert des fruits du sol. Parce que Abel est pasteur, hein, berger, hein, et Caïn est laboureur. Bon, eh bien, certains commentateurs disent que la préférence de Dieu s'explique par ce fait-là. Hein. Le pasteur, il est rêveur, il ne fait pas grand-chose, finalement. Tandis que le laboureur, il s'active, il fait beaucoup
d'efforts.
Lui, il déplace la terre. Alors, Vigny disait qu'il ne comprenait pas cette préférence de Dieu. Dieu a préféré le pasteur fainéant qui était Abel, au laboureur laborieux qui était Caïn. Mais certains commentateurs disent, eh bien, Dieu préfère la vie contemplative à la vie active. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut, hein, cette explication. Elle est intéressante, elle peut nous faire réfléchir. Je ne prétends pas que ce soit le sens objectif et définitif de l'épisode biblique dans la Genèse. Alors je crois, vous voyez Guylaine, que dans la vie, le plus important est de ne pas attacher d'importance aux choses qui n'en ont pas. Hein. Déplacer la poussière, qu'est-ce que ça veut dire? De toute façon, nous sommes tous poussière. Poussière nous sommes et nous reviendrons en poussière.
Là, je vois que les ménages, ce n'est pas une de vos occupations favorites.
Exactement, exactement. D'ailleurs, le fait que nous soyons poussière, que nous revenons en poussière, ça serait le désespoir d'une femme de ménage, par exemple. Hein. Bon, voilà. Alors, donc, je dirais que Marthe incarne une attitude qui est suroccupée par les petites choses. Et son activisme la fait passer à côté de l'essentiel. Alors, il y a un livre important de John Cooper Powys, écrivain anglais, que je conseille à nos auditeurs. Ce livre s'appelle « L'apologie des sens ». Hein. Eh bien, l'apologie des sens fait de la même façon l'éloge de la contemplation immobile qui est génératrice de force vitale. Et il fait l'éloge, ce livre, de l'énergie sans mouvement, comme on dit en grec, « energeia akinesis hein. ». Et elle est matérialisée, d'après Cooper Powys, par l'attitude du saurien vautré dans son marigot depuis l'origine des temps, hein, le crocodile, le saurien, hein. Eh bien, ce saurien se contente de regarder autour de lui. Eh bien, d'après Cooper Powys, c'est lui qui a la meilleure part. Il regarde. De toute façon, cette immobilité contemplative n'ajoute pas, dans l'instant où elle se déploie et où elle s'épanouit, de souffrance au monde. Au moins, c'est finalement une attitude innocente. Hein. Alors, de toute façon, le secret de la vie, c'est l'alternance. Et on ne peut pas faire de l'activité son seul but. Et là encore, on peut écouter la sagesse chinoise. Aux phases d'action ou aux phases yang succèdent des phases de repos ou phases yin. Yang, c'est le principe actif, masculin, et yin, c'est le principe passif, féminin. Hein. Tout le monde connaît l'idéogramme circulaire du Tao, hein. Comme le petit cercle noir dans la grande moitié blanche et le petit cercle blanc dans la grande moitié noire, le repos est en germe dans l'activité, le féminin est en germe dans le masculin, la nuit dans le jour, etc. Et inversement. Et inversement. Ce symbole du Tao figure à la fois une succession chronologique et aussi une coexistence métaphysique. Alors je dirais que, fort de toutes ces considérations, il faudrait poser une hypothèse. Pourquoi ne pas, dans chacune de nos journées, nous ménager ne serait-ce qu'un tout petit instant, peut-être 10 minutes, de farniente, ne rien faire, ne rien faire. Accepter simplement de ne rien faire du tout. Hein. On pourrait essayer. Hein. Alors il faudrait écouter aussi Montaigne, qui est un très grand maître de sagesse. Hein. Montaigne écrit « Je n'ai rien fait aujourd'hui. Et quoi n'avez-vous pas vécu ? C'est non seulement la fondamentale, mais la plus illustre de vos occupations. » C'est dans les Essais, livre 3, chapitre 13. C'est une très grande tâche, bien sûr paradoxale, hein, que d'apprendre à ne rien faire, à se désoccuper. Ce qui compte n'est pas toujours le faire, mais l'être. Hein. Alors on peut, bien sûr, essayer cette piste. Maintenant, on me dira, on ne peut pas rester toujours sans rien faire. Alors je vais envisager une autre piste maintenant. Quand il y a nécessité d'agir, on peut creuser une autre piste, celle de l'action menée avec distance. Alors on a vu lors de la dernière émission que le taoïsme préconisait le wu-wei, c'est-à-dire l'action sans action, agir sans action, agir sans se préoccuper du résultat de l'action. Hein. C'est la leçon aussi dans le monde indien de la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita, c'est un peu un évangile hindouiste. Le héros, Arjuna, doit combattre. Mais lorsqu'il considère tout le sang versé dans tous les combats passés, le héros est d'abord tenté par le désenchantement et par le désir de déposer les armes, de se retirer des combats, un peu comme le fait Achille au début de l'Iliade d'Homère. Alors apparaît Krishna, hein, qui est l'avatar, c'est-à-dire l'incarnation de Vishnu, et qui dit à Arjuna ce qu'il doit faire. Il dit « Tu dois combattre quand même, mais sans égard à la poursuite d'un gain quelconque. » Bref, en quelque sorte, tu dois combattre sans combattre, agir sans agir. Il faut donc dans la vie avoir le courage d'entreprendre, d'abord d'agir, et l'intelligence de mépriser ce que l'on entreprend. Vous voyez, c'est une philosophie donc du « comme si », hein, « alsob » comme disent les Allemands. Et on pourrait y voir la formule idéale de toutes nos actions. Combat comme si combattre servait à quelque chose, travail comme si travailler servait à quelque chose, etc. Donc c'est une vision de l'action définalisée, qui n'est pas ordonnée en but vers son seul résultat, vers son seul but, et cette vision pourrait être qualifiée d'esthétique. Au Japon, dans la tradition zen, c'est-à-dire dans la version japonaise du bouddhisme, cette attitude s'appelle mushotoku. Hein. Selon cette attitude, si l'on agit, on doit le faire sans aucun esprit de profit. Alors cela implique évidemment qu'on soit clairement lucide sur la motivation initiale de l'action, qui ne doit comporter aucun mensonge, aucune dissimulation. L'action se suffit donc à elle-même, et le résultat qui doit advenir de l'action n'est plus entre nos mains. Certains maîtres zen disent que si l'action n'a pas de but caché, elle réussira à 100%. Alors, je n'entre pas dans cet optimisme, mais je me contente de dire que la prise de distance dans l'action, relativement à son résultat, est salvatrice. Elle nous délivre de toute inquiétude, et la rectitude de ce que nous avons fait suffit. Alors il y a un livre de Roland Barthes sur le Japon, magnifique, que j'invite aussi à lire, il s'appelle « L'Empire des Signes ». Et Barthes rapporte l'observation qu'il a faite au Japon sur les joueurs de pachinko. Alors le pachinko, c'est l'équivalent de nos billards électriques. Les yeux des joueurs fixent avec fascination le mouvement autonome des billes. Sur leur trajectoire, une fois que les billes sont lancées, les joueurs se gardent bien d'intervenir. À la différence du rudoiement grossier qu'impriment à la machine nos tricheurs occidentaux, vous savez, quand ils remuent le flipper comme ça, hein. Bon, on le secoue brutalement pour arriver à quelque chose. Tandis que les joueurs de pachinko au Japon ont une attitude purement esthétique. Une fois opéré le lancement initial de la bille, son destin échappe irrémédiablement au joueur, et rien ne peut plus être réparé, hein. Pas plus que le trait du calligraphe, par exemple, sur la page, n'admet de repentir, puisque l'encre est indélébile, et tout se joue dans un premier geste, qui est aussi le dernier geste. Alors je pense que c'est un souhait que nous pourrions formuler pour nous, hein. Lorsque nous agissons, il faudrait nous souhaiter simplement la rectitude et la pleine conscience de ce que nous faisons. Pleine conscience, en anglais, c'est mindfulness, hein. Ici, je dirais que seul faire vaut. La suite ne dépend pas de nous et nous ne devons pas nous en soucier. Fais ce que doit, advienne que pourra, comme le dit le proverbe chez nous. Il faudrait donc agir et sans autre préoccupation que l'action elle-même, soyons ouverts ensuite à tout ce que la vie peut nous apporter. Et là est une clé de la sagesse, ne rien attendre, mais s'attendre à tout. Voilà, ne rien attendre, j'attends rien, mais je m'attends à tout, on ne sait pas ce qui arrivera. Hein. Comme le dit Kafka dans un texte essentiel qui s'appelle « Méditation sur le péché, la souffrance et le vrai chemin » qui est en poche Gallimard, hein. « Celui qui cherche ne trouve pas, celui qui ne cherche pas est trouvé ». Vous voyez, hein. Donc, on ne sait pas ce que sera l'avenir. C'est ce que nous allons entendre dans la chanson très connue que nous allons écouter maintenant.
Dans le berceau d'un vieux château, une promesse vient d'arriver. Une princesse tout étonnée, à qui l'on vient chanter. Et sera, sera. fille qui demandait « Dis-moi, mamie, si j'aimerais » Et sa maman disait « Sera, sera, demain n'est jamais demain. Laissons l'avenir venir, qu'est-ce sera, amours, la demoiselle lui demanda m'es-tu fidèle jusqu'à toujours et le garçon chanta que sera, sera demain n'est jamais bien loin laissons l'avenir venir que sera, sera qui vivra verra que sera.
Que sera, sera, interprété par Jacqueline François, qui vient illustrer, Michel Théron, votre chapitre sur le non-agir, le quiétisme, laisser l'avenir, voilà, faire...
L'avenir venir, oui.
L'avenir venir. Et nous passons finalement d'une façon presque naturelle à la notion de détachement.
Oui, il y a un lien avec ce que nous venons de dire. Un chapitre dans mon livre est intitulé « Détachement ». Et effectivement, il faut partir de la constatation que beaucoup de liens dans nos vies nous ligotent, font de nous des prisonniers qui sont enfermés dans une étroite cellule. Et il faudrait nous en libérer pour avoir plus d'espace en nous, pour évoluer plus à l'aise. Bref, d'être élargi. J'aime bien ce mot « élargir ». Élargissement qui se dit au sens topologique, physique, avoir une pièce plus grande, et puis aussi se dit d'un prisonnier qui sort de la prison. On dit il est élargi. Hein. Et de la même façon, au lieu de rester cloués au sol, nous pourrions espérer prendre notre envol. Mais pour voler, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nous alléger de tous nos fardeaux. En ballon, on ne s'élève qu'en lâchant du lest. Hein. Et Sénèque, un autre sage, avec Montaigne, hein, le dit très bien dans une lettre à Lucilius, en prenant la même métaphore. Il dit « Tu dois déposer le fardeau de ton âme. Onus animi deponendum est. » Vous voyez ? Mais malheureusement, beaucoup espèrent encore combler un vide intérieur qu'ils ne supportent pas, par exemple, par le divertissement des voyages. Alors là, je vais peut-être choquer beaucoup d'auditeurs, mais ça ne fait rien, hein. Je vais critiquer l'idée de voyage, hein. En effet, tous ces voyageurs voient dans le voyage leur propre diversion, un éloignement de soi, hein. Et à leur propos, Sénèque, le même Sénèque, dit encore dans la même lettre à Lucilius, son disciple, « Tu fuis en ta propre compagnie. » C'est d'état d'esprit que tu dois changer, non de ciel. Tecum fugis en latin, animum mutare, non caelum. On a beau changer constamment de lieu, si l'âme n'est pas guérie, ça ne sert à rien. Je crois que c'est Angelus Silesius, un grand sage, qui disait « Où cours-tu ? Ne sais-tu pas que le ciel est en toi ?» Hein ? Voilà. Donc... Tu dois changer d'état d'esprit, hein. En grec on appelle ça la métanoïa dans l'évangile par exemple, hein. Et non pas de lieu, de ciel. Alors je sais bien, et là je prévois les réactions des auditeurs, vont ici se lever tous les boucliers des extravertis, hein, qui trouveront bien excessive cette condamnation des voyages. On pense en effet d'habitude que les voyages sont enrichissements, et sans doute ils peuvent l'être parfois, hein. Mais la plupart du temps, ils ne sont qu'agitation stérile et fuite effrénée. Colette disait « Les voyages sont pour ceux qui manquent d'imagination. Hein. » On peut trouver des merveilles tout près de soi si on sait les voir, ces merveilles. C'est la leçon du beau film de Bruno Podalides qui s'appelle « Comme un avion ». Je ne sais pas si vous l'avez vu.
Oui, oui.
Vous l'avez vu. Hein.
Oui.
Donc ce personnage, au lieu de prendre l'avion... et donc de dépenser du kérosène détaxé, comme cela se voit actuellement, eh bien, il prend un canoë, hein, et il se laisse aller au fil de l'eau. Alors, ce film, qui est sorti en 2015, m'avait beaucoup plu, hein, parce qu'on y voit que tout est à notre portée, hein, on peut voyager. Alors, il rêve d'atteindre la mer, mais il ne l'atteint pas dans le film. Hein, bon, mais ça ne fait rien, il a connu des aventures à son niveau, hein, comme Ulysse, mais au lieu de faire toutes les pérégrinations autour de la Méditerranée, il a fait quelques kilomètres au fil d'une petite rivière. Vous voyez, Guylaine, je pense que si on croit que les choses iront mieux si on change de lieu, on se trompe complètement. Hein.
On ne fait que déplacer le problème.
Je dis souvent, emballer la poussière sous le tapis. Hein. Donc, on confond les perspectives, on s'abuse sur la vraie cause du mal-être que l'on éprouve. Le mal-être que l'on éprouve, il est en nous-mêmes et non pas dans notre décor. Hein. Alors, on projette souvent le mal-être que l'on éprouve sur le décor. Hein. Il me semble que ça serait mieux si c'était ailleurs. Mais non, Beckett disait très bien, Samuel Beckett, un grand penseur aussi, il disait « L'homme s'en prend à sa chaussure hein, alors que c'est son pied qui est malade. » Vous voyez hein. Bon, donc il faudrait réfléchir là-dessus. Et ce n'est pas pour rien que Baudelaire fait l'éloge de l'immobilité incarnée par des oiseaux qui sont les hiboux hein, et en voyant dans le voyage l'ennemi de la sagesse. Je vais vous lire ce petit poème de Baudelaire, « Les hiboux » qui se trouve dans « Les fleurs du mal ». Je rappelle qu'à la fin de mon livre, il y a une petite anthologie poétique qui illustre de façon concrète ce que le texte dit de façon professorale et abstraite parfois. Les hiboux. Sous les ifs noirs qui les abritent, les hiboux se tiennent rangés, ainsi que des dieux étrangers, dardant leur œil rouge, ils méditent. Sans remuer, ils se tiendront jusqu'à l'heure mélancolique, où poussant le soleil oblique, les ténèbres s'établiront. Leur attitude aux sages enseigne qu'il faut en ce monde qu'ils craignent le tumulte et le mouvement. L'homme ivre du nombre qui passe porte toujours le châtiment d'avoir voulu changer de place. Vous voyez hein. Donc, je pense que les candidats au voyage devraient réfléchir à cela. Et aussi, bien sûr, et ça c'est très actuel, au coût écologique que les voyages impliquent. Non seulement par les déplacements en avion, mais aussi par la surpopulation sur les lieux touristiques qui engendre de la pollution, vous voyez. Bon, alors pour toutes ces raisons, la raison principale, philosophique, métaphysique, étant que on cherche ailleurs la solution à quelque chose qu'on a en soi, pour toutes ces raisons, il faut considérer les voyages avec circonspection. Je parle des voyages touristiques, hein, je ne parle pas des voyages nécessaires, bon, bien entendu, hein, mais le tourisme, justement, a des effets pervers très importants. On l'avait vu dans l'émission consacrée à l'action, hein, les effets pervers de l'action qui se retournent contre l'agent lui-même. Et une autre façon de se fuir soi-même, c'est la course à l'acquisition de biens matériels. Hein. Vous voyez la frénésie consumériste qui affecte tous nos contemporains. Hein. Cette fièvre acheteuse fait penser à une démangeaison, à un hérétisme constant. Voyez ce que dit Socrate dans le Gorgias de Platon. Callicles voit la vie comme une satisfaction immédiate de ses moindres désirs, y compris ses désirs matériels. Mais Socrate répond à Callicles, dans le Gorgias, qu'il ressemble à quelqu'un qui aurait la gale, qui trouverait du plaisir à se gratter et qui se gratterait tout le temps. C'est comme un hérétisme, une démangeaison. Hein. Donc valoriser l'avoir par rapport à l'être, hein, réduire son être à son avoir, mène à une course sans fin qui fait penser à la soif non apaisée de Tantale, ou bien au rocher de Sisyphe qui toujours retombait, hein, ou bien au tonneau percé des Danaïdes qu'on ne pourra jamais combler. Et ces supplices dont les anciens justement ont fait la description sont une façon symbolique justement d'exprimer ce que je viens de dire. C'est d'ailleurs ainsi que Lucrèce, le sage Lucrèce, encore notre sage, disciple d'Épicure, expliquait les châtiments des damnés aux enfers dans le De Natura Rerum. Ils disent les châtiments infernaux n'existent pas littéralement bien sûr, mais ils existent symboliquement. Hein. Acquérir, eh bien c'est toujours remplir un tonneau qui jamais ne pourra être rempli, comme celui des Danaïdes. Eh bien voilà, c'est sur ces belles paroles qu'on va lever la séance. Hein. Ite missa est, la messe est dite, hein, et les auditeurs répondront Deo gratias, s'ils sont catholiques de formation.
À la semaine prochaine.
Au revoir à tous.
retrouver Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.